40 milliards d'euros, c'est ce qu'il faut trouver l'année prochaine pour maintenir la trajectoire de réduction des déficits, selon le ministre des Finances, Éric Lombard. Et cela alors que le trésor public fait sans doute déjà probablement du hors-piste, tandis que les prévisions de croissance sont revues à la baisse et que la guerre mondiale des droits de douane jette déjà un doute supplémentaire sur les capacités de l'État français à faire rentrer les recettes prévues cette année. Et que par ailleurs, l'urgence de réarmer vient exiger son lot de crédits. Le spectre de la faillite se dresse donc à nouveau, 2 mois après l'adoption du budget le plus compliqué depuis le début de la Ve République, et ceci dans un contexte de déliquescence de l'État, humilié à l'extérieur dans ses relations avec l'Algérie, et à l'intérieur, frappé par des vagues d'attaques contre les établissements pénitentiaires, et où l'on voit même réapparaître les attaques de trains, et où des faits divers hospitaliers sordides rappellent que même en matière de santé, les Français n'en sont guère pour leurs frais. Décidément, où va le pognon ? Bonsoir, je suis Philippe Fabry, nous sommes le 18 avril 2025, il est 21h40. Nous sommes en présence de l'invisible, ou Léo Portal, on te voit.
On me voit, j'ai avancé, j'ai changé la caméra aussi après.
D'accord, c'est peut-être ça qui s'est passé, on a une petite erreur sur la fin du générique, désolé en ce moment.
T'allais dire quoi, qu'en général il y avait celle de Trump, c'est ça qui finissait ? C'est ça que tu voulais dire ?
Ouais, c'est pas...
ouais, non, là j'ai mis l'autre. Ouais.
Petite erreur. C'est pas grave, de toute façon, les gens ne nous regardent pas, ils nous écoutent. Est-ce qu'on a des annonces ? Oui, petite annonce, a priori, si nous n'avons pas de mauvaises surprises. Mardi, je serai chez André Berkoff pour parler de Hail Caesars dans son émission. Donc ça doit être quoi ? C'est entre midi ou 13h et 14h, je crois.
Ouais, c'est
en général,
ça, ouais.
Il me semble que je dois être à midi et demi, mais c'est entre 13h et 14h, me semble-t-il, qu'il interroge l'invité. Donc c'est à ce moment-là que j'y serai.
Juste, il y a aussi à annoncer, je voudrais qu'on le fasse maintenant et à la fin.
Ouais.
Je crois, alors du coup, classique, je crois qu'il se passe un truc le 15 juin, non ?
Ah oui, qu'est-ce qui se passe, Léo ?
Ah, c'est à moi d'en parler, vraiment.
Ben, ça m'économise.
Ouais, bien sûr. Ben, je vais couper ta caméra. Et ben, on fait le congrès de l'historionomie, n'est-ce pas, Philippe ?
Mais oui, tout à fait.
Tout à fait.
Dis-moi en plus.
Tout à fait, Jamy. Eh bien, dis donc. Ben, écoutez, je vous ai mis le lien dans la description et je vais le mettre aussi tout de suite dans le chat. On fait donc un congrès, donc une journée historionomique avec 3 conférences et un débat. Le débat tant attendu des y aura rien contre les y a quelque chose. Y a donc une conférence qu'on a appelée Perspective de l'histoire théorique qui sera donnée par Philippe. Une conférence face à la bascule géostratégique, donc une prospective basée sur l'historionomie. Et donc certainement, ça a été validé, je crois, pour le plaisir de la contrainte du sujet, une conférence on l'appelle Antoine ici, je pense, d'Antoine sur la relation États-Unis et Canada à l'heure du césarisme. Il n'y a que 100 places. Il y a déjà presque la moitié des places qui sont prises. Et il y a un prix qu'on appelle Early Bird, donc un prix où c'est pas cher. Donc c'est 50€ jusqu'au 20 mai et après ce sera 70€. Surtout n'hésitez pas à le prendre en retard, hein, comme ça fera plus. Mais on aimerait bien quand même boucler pour pouvoir notamment préparer tout ce qui va être repas, etc. Puisque vous n'avez pas seulement 3 conférences et un débat pour ce prix-là. Non, ça presque en fait c'est presque du don en fait. Vous avez un repas, un petit déjeuner, du café, Bon, bien sûr, vous allez me voir aussi, donc ça c'est stylé. Vous allez voir Philippe, c'est encore plus stylé. Et vous allez voir j'ai envie de dire, les maîtres que vous voyez souvent dans le chat, les stars, quoi. Voilà, donc dépêchez-vous, parce que les places sont limitées. Sont limitées notamment parce qu'effectivement, pour les termes de budget, en fait, les salles à Paris, ça coûte cher. Donc on est parti sur une salle qui peut accueillir 100 personnes. Donc. À très bientôt, j'aurai très plaisir à vous voir.
Et si vous tenez à tout prêt à donner plus, mais en prenant votre billet tout de suite, vous pouvez bien sûr également souscrire à la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre ou nous retrouver sur Tipeee pour avoir les contenus supplémentaires, bien sûr, le bulletin et les lives privés des subscripteurs, comme celui qui suivra ce live et dans lequel nous répondrons à toutes les questions de nos chers soutiens, n'est-ce pas Léo ?
Habile, très habile.
Voilà, bien sûr, je rappelle que je réponds aux questions donc pendant l'émission. Et qu'éventuellement, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez toujours poser vos questions quand même. Et puis vous aurez peut-être la chance que la question soit sélectionnée de manière totalement arbitraire par notre cher Léo ou par Iruma qui fait la sélection en filtre avant ça.
C'est souvent Iruma.
Souvent Iruma, on l'oublie, c'est un peu le Deus Ex Machina ou l'éminence grise de cette chaîne. Bien, donc. Ceci est. Alors, la conférence, elle sera pas retransmise en direct.
Attends, il n'est pas impossible. En fait, je peux pas répondre à cette question pour l'instant. Elle sera peut-être retransmise en direct, mais c'est pas dit que ce soit moins cher. mais parce qu'il y a des gens qui nous ont dit sur Twitter, même si c'est payant, on est prêt, etc. Mais en fait, ça dépend aussi évidemment de l'infrastructure sur place. Moi, il me faut de la fibre et idéalement en filaire, ce qui est pas du tout évident dans les salles là-bas. En tout cas, ce sera filmé et donc en tout cas, ce sera sur la chaîne. Voir après si ce sera réservé aux abonnés ou pas. On peut tout à fait dire. Pour voir cette journée de conférence, parce que ça va être du boulot quand même pour filmer, pour enregistrer, pour monter, etc. C'est réservé aux membres de la chaîne, ça c'est possible. Maintenant, si ce sera en direct, c'est un autre problème. Voilà.
Est-ce que le petit déjeuner sera filmé ?
Je peux le filmer. Je peux le filmer, bien sûr. On va faire plein de trucs. Le moment où les danseuses arrivent, évidemment, ce sera filmé. Enfin bref, il y a plein de...
D'accord. Bien, allez, on va abréger pour les annonces. Parlons du sujet de ce soir. Sujet de ce soir, alors je crois que ça fait très longtemps en fait que j'avais pas laissé autant de temps s'écouler entre deux émissions consacrées à la France. Parce que la dernière émission date du 8 février, c'était juste après l'adoption du budget. Et depuis, je n'avais pas fait, j'avais prévu d'en faire une il y a 15 jours à peu près, quand il y a eu l'affaire Le Pen. On va parler un petit peu ce soir, j'en ai déjà dit quelques mots, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Puis bon, finalement, je ne l'avais pas fait parce qu'il y avait eu des actualités internationales qui me semblaient plus importantes. Mais ça fait partie du package, finalement, de la dégénérescence du régime. Puisque, là, je vois, vous n'êtes pas particulièrement nombreux ce soir, donc je pense qu'on a essentiellement des gens qui savent à quoi s'en tenir sur le régime français, c'est-à-dire le fait que nous sommes sur le point où nous avons commencé d'ailleurs, c'est peut-être le sujet, d'ailleurs je crois que j'en ai parlé dans la dernière mission sur la France, je vais déposer cette question, donc nous sommes sur le point de rentrer en révolution, ou nous sommes déjà peut-être rentrés en révolution, puisque je pense que le début, véritablement le premier acte de rupture de ce régime, ça a été la motion de censure qui a été déposée, qui a fait tomber Michel Barnier au début du mois de décembre dernier, qui a amené ensuite François Bayrou. Et alors pour ceux qui découvriraient le concept avec cette vidéo, je renvoie à l'émission que j'avais fait. C'est une des émissions de la première quinzaine de juillet de l'année dernière, juillet 2024, qui est « Pourquoi une révolution arrive en France ?» Et vous avez l'explication dedans de ce que je vais dire. Donc je reviens pas dessus. C'est pas la peine, vous irez voir cette émission-là si vous voulez la théorie. Donc la pratique, c'est surtout ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment est-ce qu'on avance dans cette dégénérescence. Parce qu'au fond, ce que je disais, c'est que d'une certaine manière, peut-être, hein, toujours pareil, il y a le modèle et puis il y a la façon d'arriver à interpréter l'actualité avec le modèle. Et ça, c'est pas toujours un exercice facile, c'est un exercice dans lequel je me suis trompé plusieurs fois. et dans lequel finalement, une fois que j'ai mis le modèle entre vos mains, ce qui est le cas si vous avez vu les émissions consacrées à ça, notamment celles que je viens de citer, eh bien, vous pouvez même être aussi apte, voire plus apte que moi, à discerner dans l'actualité qu'est-ce qui correspond à quoi. Bon, donc en l'occurrence, ce que je disais, je crois, lors de la dernière fois, c'est que on pouvait, que peut-être, le plus vraisemblable à ce stade, était que dans le phénomène révolutionnaire, on va dire, même si c'est pas le seul modèle à la révolution des 789, mais j'aime bien prendre celle-ci parce que sur le début, c'est une révolution qui commence alors qu'on n'est pas en guerre, si vous voulez, ce qui est un petit peu plus compliqué avec l'Allemagne 1918, par exemple, qui est un exemple que je prends souvent. Vous n'avez, il n'y a pas de pression de guerre à ce moment-là. C'est en train d'arriver, vraisemblablement, mais pour l'instant, on l'a pas. Donc, comment est-ce que ça se déclenche? Principalement du fait, ce qui est notre cas aujourd'hui, de dysfonctionnement profond de la société et de la ruine financière qui, elle, est déjà là sans guerre. Et donc, ce que je disais, c'est que la motion de censure, de ce point de vue-là, peut correspondre à une sorte de c'est ce que j'ai défendu la dernière fois, correspond à une sorte de reprise en main du pouvoir par le Parlement. Et à ce moment-là, le bon parallèle qu'on peut faire, c'est le renversement, la première bascule de la Révolution française, c'est-à-dire le serment du jeu de paume, la proclamation de l'Assemblée nationale, qui décide en fait de reprendre le pouvoir et d'être, elle, détentrice de la souveraineté, et non plus le roi. Donc c'est à ce moment-là, déjà, vous avez un premier basculement intellectuel du régime, et d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé doublement, d'ailleurs, à propos de la censure de Michel Barnier, parce que vous vous souviendrez que derrière, François Bayrou a été nommé 10 jours plus tard dans des circonstances un peu rocambolesques, où il s'est personnellement, en plus quand on voit Bayrou, personnellement imposé à Emmanuel Macron, ce qui montre la relative faiblesse dans laquelle était le président à ce moment-là, l'absence de choix qu'il avait, depuis il essaie de reprendre du poil de bête, mais ça a vraiment été une rupture de ce genre-là. Et donc ce que je vous disais la dernière fois, c'est que, après, il ne faut pas oublier une chose à propos de la Révolution, c'est que les choses se passent lentement, hein, puisque la Révolution française, on est en juin 1789, quand il y a le serment du jeu de paume, l'abolition des privilèges, ça n'arrive qu'en août, donc c'est 2 mois plus tard, mais on va peut-être y venir, je vais en parler, puisque comme abolition des privilèges, les privilégiés d'aujourd'hui, les classes privilégiées, c'est les retraités, et avec l'idée de commencer à supprimer leurs privilèges, qui cette idée avance dans le cadre de la discussion budgétaire, qui serait de leur supprimer leur abattement pour frais professionnels, d'ailleurs là encore une fois c'est un privilège fiscal, hein, vous noterez, et on est quand même dans cette ligne-là, et puis on est sur le bon timing. Mais surtout les très grandes lois importantes qui ont véritablement commencé à changer, à détruire l'ancien régime sur un certain nombre de ces piliers structurels, et qui ne sont pas politiques, qui sont véritablement pas sociales au plan de la structure du tissu socio-économique du pays. C'est une chose que j'avais insisté la dernière fois, c'est que la révolution, on voit souvent le côté politique institutionnel, mais une révolution, très profondément, ça a un effet de changement, de renouvellement des élites et de modification structurelle de l'ordre économico-socio-politique. Quoi. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a des importants transferts de richesses, ou la fin de transferts de richesses traditionnels, la fin de certaines structures sociales habituelles, etc. Donc c'est ça qui est important dans le processus révolutionnaire, presque plus que l'aspect politique, qui est un petit peu l'écume des choses et qui est juste le verrou qui saute et qui permet à ces bouleversements de se faire. Et donc ce que j'avais rappelé, c'est que la saisie des biens nationaux, l'Église, ça ne commence qu'à la fin de l'année 1789, et il faut en attendre encore. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé ce soir. Et il faut attendre encore un an et demi, c'est-à-dire au début de 1791, pour avoir les grandes lois importantes, le décret d'Allard d'abord, et ensuite la loi de Chapelet, qui là vont totalement bouleverser l'ordre justement économique interne à la France, avec la destruction de toutes les corporations, etc., c'est-à-dire toutes les structures économiques qui avaient été mises en place sous l'Ancien Régime, notamment à partir de Louis XIV, espèce de, c'est pas une économie dirigée, mais enfin, d'économie structurée, on va dire, on va appeler ça comme ça, c'est-à-dire c'est pas une économie fluide. Bon. Bien. Donc on est dans ce mouvement-là, depuis, on est entré dans ces séquences, et donc on voit apparaître les choses petit à petit. Et le fait est que, je vais commencer par là, on voit des évolutions de fond très importantes. C'est ce cher Jérôme, l'autre jour, je le remercie, je crois que c'est lui, qui a transmis sur le Telegram un article, ou en tout cas le détail d'un article, très intéressant, qui indiquait que désormais, au Parlement, la majorité des lois qui sont étudiées et discutées devant le Parlement sont des propositions de loi et non plus des projets de loi. C'est-à-dire que ce sont des lois qui sont proposées par des parlementaires et non plus par le gouvernement, ce qui est une nouveauté totale dans le système de la Ve République. Dans le système de la Ve République, en général, vous avez le gouvernement qui fait ses projets de loi, qui les amène au Parlement, et le Parlement sert un petit peu, où il y a une majorité, sert un petit peu de chambre d'enregistrement des volontés du gouvernement qui est majoritaire. Là, donc, on a une évolution de fond qui est très très importante, c'est-à-dire que de plus en plus, c'est le Parlement, et ça fait écho à ce que je disais sur le fait que le Parlement a repris un petit peu le pouvoir, les rênes du pouvoir, c'est le Parlement qui de plus en plus fait des propositions de loi. Et ce mouvement-là est favorisé par le fait que vous avez un pôle de stabilité et de pouvoir important au Parlement, qui est le Sénat. On en revient toujours au Sénat, avec l'archer, mais on en revient toujours à cette idée du Sénat qui a une majorité claire, conservatrice, des Républicains, donc sous la houlette de Gérard Larcher, qui peut proposer ses projets de loi, et ses propositions de loi. Et l'avantage des propositions de loi du Sénat, c'est que on sait que si elles sont adoptées à l'Assemblée nationale, elles seront adoptées au Sénat aussi. Donc elles ont, les propositions de loi du Sénat, si vous voulez, ont une viabilité supérieure à celle du Parlement, parce que le Parlement, avec les très grandes difficultés à y trouver des majorités, ça c'est déjà un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que si ce sont des projets de loi centristes ou de gauche qui ne satisfont pas les Républicains, ben, ils n'ont aucune chance de passer au Sénat. Donc les Républicains ont toujours finalement le pouvoir. Hein. À l'époque, quand il y avait eu le coup d'État d'Éric Ciotti, j'avais rappelé que c'est le parti du régime, les Républicains, en tout cas c'est l'héritier du parti du régime, le parti gaulliste de base, RPF, qui a été suivi par RPR, UDF, etc. Bon, il y a eu d'autres étapes entre-temps, mais c'est cette continuité gaulliste qui est en fait au cœur du régime, c'est-à-dire c'est le parti du régime, hein, tout simplement le parti pro-régime, si vous voulez. Et le parti communiste en URSS, et c'est encore ce parti qui tient le cœur du pouvoir d'une certaine façon. Donc il y a cette, si vous voulez, sur le sillon fondamental qui se creuse, on est toujours dans ce mouvement de parlementarisation fondamentale. Maintenant, on observe également un mouvement en sens inverse, qui est la volonté d'Emmanuel Macron de revenir sur devant de la scène. Ce dont on se doutait, hein, ça ne nous surprend pas tellement. C'est ce qu'on a vu pendant la Révolution, d'ailleurs, avec l'arrivée du personnage ou de la transformation de Louis XVI petit à petit en personnage de Monsieur Veto, hein, c'est-à-dire celui qui s'oppose au travail de l'Assemblée nationale et aux réformes qu'elle cherche à faire. Et Emmanuel Macron, pour faire ce mouvement-là, a utilisé en particulier son domaine réservé, dont on doit noter qu'il ne l'a pas été contesté. D'ailleurs, ce domaine réservé donc des relations internationales, qui, je le rappelle, n'a aucune réalité constitutionnelle. Il n'est pas du tout question que le président de la République dirige la politique étrangère de la France. Il est garant des traités, c'est lui qui représente la France effectivement et qui signe les traités au nom de la France, mais c'est pas lui qui est censé diriger la politique étrangère de la nation. C'est pas ce qui est prévu dans la Constitution. Ça relève normalement intégralement du gouvernement. Mais cette idée qui s'était imposée est encore là pour le coup, et celle-ci n'a pas encore été battue en brèche. Autant il y a eu une reprise du pouvoir du Parlement en interne, autant pour les affaires étrangères, on laisse encore ça au président de la République. Et ça, c'est intéressant parce que ça, encore une fois, ça rend un petit peu à ce qui s'est passé sous la Révolution, où on ne contestait pas encore totalement le rôle du roi. Il y avait l'idée qu'on voulait co-gérer à l'intérieur et décider ce qu'on faisait du pognon, hein, parce que c'était ça l'idée des contribuables aux États généraux. Mais après, bon, la politique étrangère de la nation, effectivement, les gens n'étaient pas tellement habitués à le discuter, donc éventuellement, ça pouvait rester au roi. Et donc, on trouve finalement la même dynamique qui se développe entre le Parlement et le président de la République aujourd'hui, mais avec des points de friction. Alors, les points de friction ne sont pas arrivés de là où on aurait pu l'attendre à la base, par exemple du Premier ministre. Normalement, ça aurait été à François Bayrou de contester l'autorité du président de la République sur les affaires étrangères et de tenter de ramener ce pouvoir à lui, puisque normalement c'était ce qui était dans la Constitution et ça aurait été dans la veine de la façon dont il s'est imposé. Malheureusement, avec François Bayrou, on a vu qu'il a eu beaucoup d'énergie pour s'imposer à Emmanuel Macron pour devenir Premier ministre. Bon, depuis, on a l'impression qu'il a consommé toutes les batteries dans ce geste héroïque, finalement, mais c'est pas grave, c'est-à-dire qu'il y a d'autres ambitions personnelles qui essaient de s'occuper de ça, et en particulier, il y a eu toute la séquence autour de l'Algérie avec Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qui, lui, alors malheureusement, ça c'est quelque chose qu'on voit encore, c'est que, en dépit de l'évolution récente, en dépit du fait qu'un certain nombre ont compris que c'était par le Parlement qui jouerait un rôle, hein, Wauquiez qui est revenu comme député, etc., on voit que l'obsession pour l'élection présidentielle est encore toujours là. Et on est toujours face à des gens qui n'ont pas fait évoluer leur logiciel là-dessus. Donc on a un Wauquiez qui rêve de la présidentielle, on a un Retailleau qui rêve de la présidentielle alors que, finalement, il n'avait aucune, probablement il y a 6 mois, il n'avait aucune raison d'en rêver. Et là, tout d'un coup, il s'imagine qu'il est présidentiable. Bon, alors ceci est un petit peu, naturellement, un petit peu excessif dans le stade, mais forcément, ça tourne. Ça tourne le. Juste, alors, je réponds quand même, parce que je vois qu'il y a un petit débat dans le chat pour en terminer là-dessus. Il y a encore des gens qui vont se poser question de savoir si je suis historien ou pas. Je suis évidemment historien, à partir du moment où je suis historien du droit. J'ai fait une thèse sur 6000 pages de latin humaniste. Allez-vous les taper, les 6000 pages d'un auteur latin au XVIe siècle pour savoir ce qu'il disait et le restituer en comparant avec tout ce qui se disait à l'époque et en le remettant en perspective dans l'histoire des idées politiques depuis le Moyen-Âge sur ce qu'était la place de la monarchie, comment elle se construisait, etc. Donc j'ai fait une thèse d'histoire des idées politiques. Et ceux qui pensent qu'il faut des diplômes pour être historien, je rappellerai que jusqu'à extrêmement récemment, et quand je dis extrêmement récemment, ça doit être il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de doctorat en histoire. N'est-ce pas? Vous faisiez un doctorat en lettres, mention histoire. C'est du doctorat en lettres. Donc vous pouviez faire un doctorat en lettres, vous pouviez faire un doctorat en droit et ensuite faire de l'histoire du droit. Et je rappelle que qu'il n'y a que des mathématiciens qui font de l'histoire des mathématiques, par exemple. Ça n'empêche pas d'être historien. C'est juste qu'il faut être mathématicien pour comprendre. Pour faire de l'histoire du droit, il vaut mieux être juriste, sinon vous panez rien à ce que vous racontez. Donc les gens qui font ce truc, ah mais vous n'avez pas fait d'études d'histoire, vous ne comprenez pas comment ça se passe. Vous ne comprenez, donc n'essayez pas de juger, d'accord? Voilà. Voilà. Et puis les historiens, il faut savoir tout de suite que les historiens en général, c'est-à-dire les gens qui sont dans l'université, qui sont historiens, n'ont absolument pas de problème à considérer comme historiens les historiens du droit. Hein, il y a des colloques où ils se voient, ils discutent, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, à partir du moment où vous êtes un no-name qui peut-être est en licence d'histoire, je ne sais pas, ne pensez pas qu'on n'est pas historien si on a fait une thèse à l'histoire du droit. Je fais la parenthèse parce que je suis un petit peu
Non mais
fatigué
si
par
tu veux,
ce genre de
si tu
débat.
veux, tu sais les mecs ils ont fait comme moi quoi, c'est-à-dire qu'en fait collège, lycée, histoire, géo, ils sont au moins autant historiens que toi. C'est
Ouais.
normal en fait quand t'as fait lycée, collège, histoire, géo, tu vois, donc jusqu'au bac, ben
Ouais.
t'es autant historien qu'un mec qui a une thèse en histoire du droit, qui a fait des milliers d'heures de vidéos sur l'histoire, qui a écrit 10 bouquins sur l'histoire. C'est
Ouais, qui
normal,
a été
c'est.
qualifié maître de conférence par la section histoire du droit du Conseil national des universités. Ouais, c'est marrant, hein, comme les gens. Hein. Bah,
En fait, c'est
bref.
pour ces gens, pour être historien, il faut faire 300 ans d'histoire, en
Je
fait.
sais pas. Non, 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 il faut avoir juste un. Tu sais, il faut avoir fait une maîtrise d'histoire.
Mais
Voilà.
non, mais
Mais il
attends,
faut l'avoir fait au Mirail et pas à Capitole. C'est
ils en
ça
savent
le.
rien, ils veulent juste faire chier, en fait.
Voilà. Non, mais je préfère le dire comme ça. Voilà. Vous ferez un short et puis les gens les gens, on balancera systématiquement quand les gens auront cette réflexion idiote. Donc, je reviens sur ce que je racontais. Bruno Retailleau, ainsi qu'un certain nombre d'autres, sont toujours animés par leur volonté personnelle. Et donc, Bruno Retailleau, lui, il a trouvé un axe sur lequel jouer, qui est l'axe sécuritaire, et notamment l'axe de l'immigration. Et donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a tenté de faire contre l'Algérie, en montant un peu ce bras de fer, Aller dans le sens d'une usurpation, effectivement, des pouvoirs du président. Alors, ceci lui a été opposé en expliquant que le problème, c'était que c'était pas à lui de traiter ça, c'était au ministre des Affaires étrangères, et c'est même la discussion que les Algériens ont eu eux-mêmes. Bon, alors qu'évidemment, le problème, malgré tout, alors, à tout le moins, il aurait fallu effectivement une coordination avec le ministre des Affaires étrangères, mais le problème étant un problème d'OQTF qui sont de la responsabilité du ministre de l'Intérieur de les expulser, naturellement, c'était en partie son rôle. Le problème, et là aussi, le problème, c'est que nous sommes face à ce type de gouvernement qui n'est pas un gouvernement qui a une majorité, ou qui sont des gouvernements de coalition, dans lequel le ministre de l'Intérieur et le ministre des Affaires étrangères ne sont pas du même bord, tout simplement. Donc forcément, ça crée des tensions, et en plus, le ministre des Affaires étrangères est du bord du président de la République, et donc naturellement plus fidèle au président de la République qu'au gouvernement. Donc tout ceci a entraîné cette séquence difficile à propos de l'Algérie, et on notera donc quelque chose d'intéressant, c'est là-dessus que je voulais venir, c'est que l'affrontement du gouvernement et du président de la République, ou d'une partie du gouvernement et du président de la République, mais dans la partie du gouvernement, je dirais qu'il y a aussi une partie du Parlement, puisque derrière Bruno Retailleau, vous avez en fait tous les LR du Sénat, puisque je rappelle que Bruno Retailleau était le chef de file des LR au Sénat avant de devenir ministre. Donc c'était un petit peu, si vous voulez, au niveau des Républicains, le bras droit de Gérard Larcher au Sénat. Mais Gérard Larcher ne pouvait pas diriger les Républicains puisqu'il était président du Sénat en son ensemble. Donc celui qui dirigeait les Républicains, c'était Retailleau. Donc c'était le numéro 2 des Républicains au Sénat, si vous voulez. Et donc, en ce sens, on peut considérer que la tentative de Bruno Retailleau face à l'Algérie, dans laquelle il a essayé d'entraîner un petit peu Bayrou. On a pensé que Bayrou pouvait y aller avec l'idée d'une approche graduée, etc., bon, qui finalement on n'a pas vu. Mais il y avait véritablement l'idée pour le Parlement de s'emparer un petit peu d'une question qui relevait du domaine réservé. Et c'est très intéressant de voir comment la question s'est réglée. Très clairement, elle s'est réglée au niveau formel, on va dire, sur une victoire du président de la République qui a réussi à reprendre la main sur le truc et à imposer sa stratégie. Mais par une défaite sur le fond du président de la République, parce que ça a été un fiasco total, dans la mesure où il a repris la main, il a refusé qu'on aille à l'escalade, justement l'idée de l'escalade graduée, il a fait taire tout le monde, et il a fait son dégel, avec l'Algérie, en envoyant donc Jean-Noël Barrot. Et ce qui devait arriver arriva, on s'en doutait, naturellement, le régime algérien qui s'est senti enhardi par cette démonstration de faiblesse française a cherché des poux à l'administration française derrière, et surtout dans une affaire judiciaire, puisque c'est une affaire dans laquelle un influenceur algérien hostile au pouvoir, alors rappelons que une bonne partie du bisbille qu'il y avait, outre le problème des OQTF pas récupérés, c'était l'affaire Boualem Sansal, naturellement un opposant arrêté en Algérie. Donc, autre cas, vous avez un influenceur algérien qui avait été kidnappé l'année dernière par un groupe de gens et qui, là, ont été, semble-t-il, identifiés et arrêtés par la justice française. C'est une affaire judiciaire avec une instruction, donc de manière indépendante, pour le coup, du pouvoir politique, et pas du tout une manœuvre contre l'Algérie. Donc, surtout que, oui, il y avait une instruction, donc c'est même pas le parquet qui décide, c'est un juge d'instruction, donc encore plus indépendant que les parquetiers, si vous voulez, que les procureurs. Donc c'est typiquement la justice qui suit son cours, et là-dessus, vous avez donc les Algériens qui expliquent que c'est un scandale en fait parce qu'on les empêche de poursuivre leurs opposants jusque sur notre sol, hein, c'est comme ça l'idée. Je ne peux pas m'empêcher de me demander à quel moment on va décider de hausser le ton. Est-ce que bientôt le gouvernement algérien aura le droit de s'en prendre aux citoyens français sur le sol français qui critiquent le gouvernement algérien? Ça peut finir par arriver comme ça, hein, si on hausse pas le ton. Toujours est-il que donc ceci est arrivé, donc ils ont décidé d'expulser certains de nos diplomates. On a expulsé les diplomates en sens inverse, et Jean-Noël Barrot a fait une espèce de déclaration un peu minable en expliquant que c'était pas très gentil tout ça, et que ça allait pas dans le bon sens, etc., et qu'il fallait des relations sincères, tout ça. Bon. Donc un fiasco sur le fond, parce que humiliation du pays par le président de la République. Alors, je ne veux pas aller trop loin dans les comparaisons abusives. Donc naturellement, je, je, ce que je vais dire là est toute proportion gardée. Je n'ai pas réfléchi avant, je vous le dis parce que j'y pense maintenant. Mais je vous faisais la comparaison avec Monsieur Veto, le roi de France, Louis XVI. Louis XVI, pour tenter de reprendre en main un petit peu la situation, avait décidé de déclarer la guerre au roi de Prusse et aux émigrés. Alors, petit rappel simplement, l'idée des révolutionnaires, c'est que les émigrés, donc les nobles, hein, royalistes, hostiles à la révolution, qui s'étaient enfuis, qui avaient quitté la France et qui s'étaient rendus donc à l'étranger, donc qui avaient émigré tout simplement, préparaient en fait une armée, assemblaient une armée, c'était un petit peu l'idée qui germait dans l'esprit des révolutionnaires, sur les frontières, donc à l'est, avec le soutien notamment de du roi de Prusse, et s'apprêtait finalement à attaquer la France pour mettre fin à la Révolution et rétablir le roi dans son pouvoir. Et donc, à la fois pour reprendre la main et pour affirmer finalement sa légitimité et pas qu'il était pour le parti de l'étranger, Louis XVI a déclaré la guerre, donc, je me souviens plus de l'énoncé de c'était une guerre à, non c'était d'ailleurs c'était pas une guerre au roi de Prusse, c'était une guerre empereur d'Autriche, mais je me souviens plus trop de la formulation. Excusez-moi, je là. Voilà, c'est la déclaration qui avait été adressée au roi de Bohême et de Hongrie. Voilà. Et c'était le titre qui lui donnait. En fait, l'idée, c'était de déclarer la guerre aux Habsbourg. Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas le roi de Prusse. Qu'est-ce que je raconte? Donc, à la maison d'Autriche, en fait, hein, c'est-à-dire à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc, bon, vous savez comment ça s'est passé ensuite. Il y a eu un certain nombre de revers dans la guerre qui ont été reprochés au roi, justement, puisqu'il a fini par être accusé d'avoir en fait cherché à torpiller la révolution en lançant une guerre que la France devait perdre, en fait. C'est ça l'idée. Donc il a été reproché de jouer un double jeu, et c'est une des choses qui lui a été reprochée pendant son procès plus tard, c'est-à-dire la trahison. Donc je trouve ça intéressant parce que bon, on n'est pas Macron nous a enfin. Il y a d'autres choses qui pourraient jouer ce rôle-là, hein, au niveau de la guerre, notamment s'il y a des choses qui se passent en Ukraine et que ça se passe pas bien. Vous savez que c'est une des possibilités que j'ai déjà évoquées. Mais on peut avoir quelque chose aussi de voisin. Alors là, il n'y a pas eu de lancer de guerre avec l'Algérie, mais il y a eu la volonté de reprendre la main avec un dossier d'affaires étrangères. Et ça s'est très mal passé. Et en ce sens-là, ça mine encore une fois l'autorité du président de la République, et en particulier aussi, justement, si on se met à parler de l'Ukraine ou si on se met à parler des États-Unis, avec l'idée que bah, c'est bien joli d'aller faire le dur face aux États-Unis ou face à la Russie, si vous n'êtes pas capable de vous imposer à l'Algérie. Surtout que l'Algérie étant une alliée traditionnelle de la Russie, dans le cadre de la confrontation géostratégique mondiale, ça pose quand même question cette faiblesse par rapport à l'autre côté de la Méditerranée. Donc ça, c'est un élément qui me semble important, qui n'est pas encore totalement déployé. Hein. On va sans doute en voir des évolutions dans les semaines qui viennent. Mais dans le cadre de ce rééquilibrage entre la présidence de la République et le Parlement, je pense qu'on a là quelque chose d'important entre le Parlement et le gouvernement. Hein. C'est-à-dire que, à voir comment est-ce que Bruno Retailleau va essayer de rebondir sur le truc. Bon, je m'en fous un peu de Bruno Retailleau personnellement, sa carrière ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est l'effet que ça peut avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il va être soutenu dans ses manœuvres par une partie du Parlement, notamment par le Sénat, pour mettre en difficulté Emmanuel Macron? Je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'évolutions qui vont avoir lieu là-dessus. Et encore une fois, hein, typiquement, ça retombe sur ce que je disais, c'est-à-dire on est dans cette évolution relativement de temps long qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années, à la suite du premier basculement du régime. Et donc on est, selon moi, dans le processus révolutionnaire sur ce point-là. L'autre point de déstabilisation, j'en dis deux mots, c'est ces attaques qu'il y a eu contre les prisons. Donc j'ai essayé de me renseigner un petit peu tout à l'heure pour voir si on en savait un petit peu plus, On n'en sait pas tellement en plus. Apparemment, ça pourrait être l'extrême gauche, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas habituel dans leur façon d'agir, etc. D'autant plus que, semble-t-il, le groupe là sur les droits des défense et droits des prisonniers français, c'est quelque chose qui était pas connu avant. Donc c'est un genre de système qui, voilà, c'est curieux. Donc d'aucuns se disent que ça pourrait être une espèce de faux-nez pour des narcotrafiquants, ce qui est possible aussi, mais j'ai entendu également des criminologues venir expliquer qu'en général les narcotrafiquants n'essaient pas de s'en prendre aux prisons. En général, ils défendent plutôt le territoire sur lequel ils exercent, mais sur les prisons, bon, beaucoup moins. En même temps, il y a quand même une nouveauté désormais, ce qui est que, d'une certaine manière, pendant longtemps, les prisons ont été accessoirement leur territoire, puisqu'ils y bénéficiaient, ou en tout cas, ils arrivaient à bénéficier par des contournements d'un certain nombre de libertés sur la gestion de leur business. Et avec la loi contre le narcotrafic, enfin, dite contre le narcotrafic, ça peut, c'est critiquable aussi, parce qu'il y a des dispositions qui pourraient servir à autre chose, mais la loi contre le narcotrafic qui doit être adopté, ben ça peut être un moyen de lutter contre ça, avec l'idée que ça va commencer à gêner leur business, et d'une certaine manière, donc, ça commencerait à empiéter sur leur territoire, et donc avec des manœuvres d'intimidation. Et troisième hypothèse, mais en fait, il est aussi possible que toutes les hypothèses soient interpénétrées et même conjuguées pour arriver à cette explication-là. Bon, je m'en méfie toujours un peu parce que ça fait un peu, ça fait un peu le complot russe, hein, donc c'est toujours ce dont on parle, même si c'est pas absurde, il n'est pas du tout impossible que vous ayez des volontés de déstabilisation étrangère qui jouent là-dessus. D'autant plus que, encore une fois, ça fait longtemps que je vous dis que dans le cadre du déclenchement d'une révolution en France, le gros risque, c'est que, comme l'Espagne des années 30, nous devenions le terrain de jeu et d'enjeux d'un certain nombre de puissances étrangères qui pourraient s'affronter par proxy, essayer de déstabiliser le pays pour obtenir des effets stratégiques à grande échelle. Et donc il n'est pas du tout invraisemblable qu'il y ait des groupes effectivement d'ultra-gauche, mais aussi des narcotrafiquants, qui soient en partie aussi poussés, aiguillonnés, financés par des services secrets étrangers. Ça peut être aussi l'Algérie d'ailleurs, ça peut être la Russie, ça peut être l'Algérie, ça peut être la Russie via l'Algérie. Il ne faut pas écarter la Russie parce que je rappelle que, contrairement à un certain nombre d'autres pays où la déstabilisation russe, ça peut être une excuse commode qu'on voit dès qu'il se passe quelque chose, nous en France, on a des affrontements assez directs avec la Russie, hein, en Afrique en particulier, c'est encore le cas. Donc voilà, écarter, ça paraît rapide d'écarter cette théorie. Donc on peut avoir un ensemble de choses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que d'ores et déjà, donc d'une certaine manière, on voit se produire le genre d'actes, d'incidents susceptibles d'engendrer de la tension, voire du chaos si ça se multiplie, que typiquement, ben, j'attendais et je vous ai malheureusement annoncé ou qu'on a anticipé sur cette chaîne dans le cadre d'une plongée finalement dans un processus révolutionnaire. Donc c'est un peu tôt, hein, parce qu'on s'attendrait plutôt à avoir d'abord des contestations sociales plus classiques avant d'arriver là-dedans, mais c'est pas non plus totalement absurde. Le côté ultra-gauche est peut-être vrai, on a une ultra-gauche qui s'excite et qui s'énerve de plus en plus depuis 2 ans maintenant en France. Ça a été le cas en particulier après les élections. Il y a eu l'espoir qu'ils aient leur Premier ministre. Puis il y a eu une espèce de tension pendant un moment. Là maintenant, c'est retombé. Il n'est pas impossible. On serait dans le timing finalement. Vous savez, ce genre de truc, c'est un même moment percolé. Que vous ayez des gens qui commencent par... Parce que vous avez des gens, hein, qui ont dit de l'ultra-gauche, on a vu des discours à l'extrême-gauche, dire qu'il allait peut-être falloir finir par devenir violent, etc. Ce n'est pas des choses qui se font comme ça en 2 minutes. Mais ça peut être des phénomènes qu'on voit apparaître petit à petit à mesure que des gens s'organisent, se radicalisent entre eux. Et il faut d'abord qu'ils forment des groupes, puis qu'ils commencent à se monter la tête, puis qu'ils commencent à préparer des trucs, et là, ils commencent à agir. Donc finalement, on n'est pas tout à fait un an après l'élection. C'est pas tout à fait absurde. Et ça fait quand même des choses importantes, parce que si ce sont des tensions qui s'accroissent, si on a une autre échéance électorale qui apparaît avec une nouvelle dissolution, ce qui n'est pas encore sûr, mais ça pourrait arriver. De l'autre côté, on a quand même d'autres évolutions du régime qui vont aussi dans le sens d'une déstabilisation. On se trouve quand même avec aussi un retour... Alors, c'est pas de l'autoritarisme, il faut que je dise deux mots de l'affaire Marine Le Pen. Évidemment, c'est pas de l'autoritarisme, on peut pas dire que Marine Le Pen a été condamnée parce que le pouvoir exécutif l'a voulu. Hein. Bon. Mais il faut aussi voir comment ça fonctionne. Le truc, c'est que c'est pas juste la question du pouvoir, c'est la question du système. C'est-à-dire qu'on a vu quel était le genre d'idée qu'avait la présidente qui a rendu cette décision. On a vu quelle était l'argumentation dans cette décision. Moi, je suis désolé, il y a des choses qui m'ont dérangé dans la façon dont la décision était rédigée, avec l'idée d'accuser et de dire qu'en plus c'était de mauvaise foi de la part... Vous savez, ça arrive parfois, ça, que dans des décisions, vous ayez des aspects, je trouve, jugements moraux, mais qui sont pas fondés sur la loi ou sur l'universalité. On a l'impression que c'est un jugement personnel du magistrat. Et on a envie de dire, ça arrive, hein. Des fois, vous avez les magistrats qui disent des trucs, vous avez envie de vous dire, non, mais là, vous n'êtes pas là pour faire la morale au gars, c'est pas comme ça que ça va. Bon. Il y a quand même un côté dans ces paragraphes qui sont sur le fait que c'est quand même un comble, d'une certaine manière, pour un parti qui se disait eurosceptique, d'avoir qu'à taper du fric de l'Europe comme ça. Bon, c'est pas le sujet. Bon. Moi, cette décision ne m'a pas choqué sur le plan purement pénal, c'est-à-dire que le fait que les gens soient condamnés, à partir du moment où les magistrats, ce qui peut se discuter, hein, mais à partir du moment où les magistrats considèrent qu'il y a détournement, qu'il y ait de la prison derrière, etc., ça ne me pose pas de problème. Voilà. Ce qui me pose problème, c'est la question de l'inéligibilité. Comme je l'ai dit, je crois, l'autre jour, pour moi, il y a deux signes d'immaturité politique. Le fait de croire qu'il faut que les hommes politiques n'aient pas de casier judiciaire et le fait de croire que le Sénat, ça ne sert à rien. Alors que le Sénat est un élément de stabilisation extrêmement important dans le standard démocratique européen, et c'est un élément crucial de séparation des pouvoirs, que les gens puissent voter pour n'importe qui qu'ils veulent, et que l'électorat soit le seul à décider pour qui il peut voter ou pas. Hein, qu'il n'y ait pas un juge qui vienne vous dire « pour lui vous ne pouvez pas voter parce qu'il a fait ceci, cela ». Parce qu'il y a toujours moyen pour un appareil d'État d'arriver à condamner quelqu'un pour quelque chose. Et là-dessus, je tiens à être très clair. Cette décision, elle pose problème parce que la façon dont elle a été défendue par un tas de gens, surtout du centre, un peu moins à gauche, mais surtout du centre, ça a été de dire « mais c'est normal, c'est ça l'état de droit, la loi s'applique à tous, hein, donc ça doit s'appliquer à Marine Le Pen ». Alors le problème, c'est que, je suis tout à fait d'accord, et donc je disais « j'ai pas de problème avec la condamnation pénale », le problème, c'est que c'est extrêmement hypocrite de venir dire « la loi, il faut que la loi s'applique à tous », alors que la loi s'applique toujours au même, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison que la loi ne s'applique pas au Rassemblement National. Là où ça pose problème, c'est quand la loi ne s'applique qu'au Rassemblement National. Ou que c'est toujours les mêmes qui sont condamnés pour les mêmes choses, alors que d'autres n'arrivent à ne pas être condamnés. Oui. C'est le cas de Richard Ferrand, hein, qui a fini au Conseil constitutionnel. C'est le cas plus récemment, vous avez appris, de Kohler, Alexis Kohler, donc, qui a donc quitté son poste au soutien de Macron, où il était depuis le début de la présidence Macron, qui a refusé de se présenter devant une commission d'enquête du Sénat, qui avait déjà d'ailleurs refusé devant la commission des finances. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera pour la commission des finances, mais le fait de refuser de se présenter devant une commission d'enquête, c'est passible poursuite pénale. Hein, donc vous pouvez être poursuivi pénalement pour ça, hein, pour ne pas vous avoir déféré une convocation du Parlement. Et on a appris, alors je sais que Coquerel, là, mais enfin je n'ai pas entendu de nouvelles depuis, voulait poursuivre pénalement au niveau de la commission des finances. Je n'ai pas l'impression qu'il ait bougé, je pense qu'on l'aurait su. Par contre, on a appris que, semble-t-il, il est certain qu'il ne sera pas poursuivi pour ça par le Sénat, parce que ça aurait gêné des gens dans la majorité macroniste qu'il soit poursuivi pour ça. Et donc là, vous avez envie de dire, donc c'est une grosse blague, en fait, parce que lui, pour le coup, il n'y a pas de doute, hein, ça fait deux fois qu'il refuse de déférer à des convocations, mais on ne va pas le poursuivre parce que ben, ça risquerait de poser problème dans la majorité, donc pour des pures raisons politiques, il ne va pas être poursuivi. Alors qu'aucune raison politique de ce type-là, de ce genre-là, n'a jamais protégé le Rassemblement National. Autre hypocrisie importante, si la France avait eu le même système électoral, le même mode de scrutin, donc proportionnel, que ses voisins, depuis 30 ans, le Front National puis le Rassemblement National auraient eu des députés. S'il avait eu des députés, il aurait eu des financements. D'accord ? Donc il aurait eu plus d'argent qu'il n'en a eu sur toute cette période-là. Le fait qu'il n'ait pas ça, en raison de ce mode de scrutin, du scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui est fait pour l'empêcher d'arriver au Parlement, Eh bien, il a eu un manque à gagner pendant toutes ces années-là, et donc il était forcément plus enclin à essayer, plus que les autres, d'aller récupérer du pognon. Donc, quand les gens viennent lui dire, oui, par exemple, sur Bayrou, puisque Bayrou et le MoDem ont été poursuivis exactement pour les mêmes choses que le Rassemblement national. Et quand vous avez des gens qui viennent nous dire, oui, mais pas du tout sur les mêmes sommes, c'était genre quelques centaines de milliers d'euros, alors que le Rassemblement national, c'est 4 millions, ben, vous avez une réponse claire, c'est que oui, le Rassemblement national est allé tirer plus d'argent de ce moyen-là, qui pendant un moment était dans une légalité assez floue d'ailleurs. Hein, les gens pensaient que c'était faisable, puisque vous aviez un assistant parlementaire, vous lui faisiez faire du travail, c'était pas forcément pour le Parlement européen, c'était un assistant parlementaire, il fait un travail, ça peut être au service du parti qui est élu, qui est député. C'est une question qui se discute encore une fois, on verra ce que la Cour d'appel en pensera. Mais l'idée, c'était pas juste au Rassemblement national, ça s'était fait au MoDem aussi, donc et tous les partis en fait. Et quand ces partis vous disent là, oui, mais c'était pas le même ordre de magnitude, oui, mais parce que le MoDem, il a toujours eu des élus, lui, au scrutin uninominal majoritaire de Tours, parce qu'il trouvait des arrangements, et donc, dans ce mode de scrutin-là, il les avait. Alors que le RN, qui ne les aurait eu qu'à la proportionnelle, lui, il n'avait pas ces élus-là. Et donc, il était obligé de faire ça. Et donc, vous voyez qu'à la fin, on vous bassine avec l'idée que, mais c'est les règles. C'est exactement le problème de jouer les règles. Vous savez, c'est les gens qui jouent les règles contre le jeu. C'est-à-dire, ils vous disent tout ça, oui, mais j'ai gagné, oui, mais j'ai raison, oui, mais regarde, la règle dit que c'est les gens avec lesquels vous n'avez plus envie de jouer à la fin. Vous avez juste envie de bazarder le jeu en disant, mais en fait, ça, on ne peut pas jouer. C'est jamais le jeu qu'on joue. On joue toujours autre chose. On joue toujours un autre jeu que le jeu. C'est le jeu des règles. Bon, eh bien, c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron pendant longtemps. Bon, on a vu que c'est ce qu'il a fait aussi avec certains usages des 49.3, de tout un nombre de magouilles qu'il y avait eu sur l'utilisation du Conseil constitutionnel pour censurer une loi votée par le Parlement et pour finalement promulguer une loi qui avait telle qu'elle avait été grosso modo rejetée explicitement par le Parlement. Tout ça, c'est des gens qui jouent les règles et qui à la fin viennent vous expliquer que oui, vous avez perdu la partie, mais bah tant pis, c'est les règles. Et oui, mais c'est les règles, mais c'est pas le jeu, c'est pas du jeu. Et donc je pense qu'il y a quand même ce sentiment qui est également en train de monter en parallèle de tout ce que j'ai dit, qui est le côté oui mais tout ça c'est pas du jeu. Et donc je pense que ça aussi ça va malgré tout nourrir un terreau de contestation qui fait qu'on n'est pas au bout de nos peines en matière de troubles politiques, surtout à partir du moment où la grogne sociale va être de plus en plus nourrie par un certain nombre d'autres sujets. Comme les ZFE, hein, par exemple, hein, qui sont du même genre que le genre de choses qui avait suscité les gilets jaunes à l'époque, etc. Et là-dessus, en toile de fond, vous avez donc qui réapparaît, hein, le sujet du jour fondamental, qui est le sujet du pognon, le sujet de l'argent qu'on n'a pas. Alors, je ne vais pas refaire tous les calculs que j'avais faits dans les dernières émissions de l'année dernière, hein, puisqu'il y a eu plusieurs émissions, je pense, que j'avais consacrées à la question du budget. Simplement, je rappellerai que on continue d'emprunter, me semble-t-il toujours de plus en plus cher. On a un volume de dépenses qui continue de croître, et il y a quand même ce truc totalement hallucinant, mais qui est que les 40 milliards dont parle Lombard d'économies qu'il faudrait faire l'année prochaine, en réalité, ce serait des 40 milliards d'économies sur l'augmentation des dépenses. C'est-à-dire qu'il n'est même pas question de diminuer encore les dépenses de l'État, il est question de diminuer l'accélération de l'endettement, ce qui est tout à fait hallucinant. Et la grande question qu'on a envie de tous se poser, et j'espère qu'on aura la réponse bientôt, c'est de savoir à quel point a-t-on déjà dérapé sur le budget 2025? Parce que je pense qu'on a déjà dérapé sur le budget 2020. Si vous vous souvenez, en 2024, l'année dernière, c'est à cette époque de l'année qu'on avait Bruno Le Maire qui avait commencé à venir expliquer qu'il allait finalement falloir trouver 10 milliards de plus. Bon, là, on a Lombard qui nous explique d'ores et déjà qu'il faut en trouver 40 milliards. Je rappelle qu'à la fin de l'année, on s'est aperçu que c'était 20, puis plutôt 30 qu'il fallait trouver. Donc, à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année, si on suit les mêmes ratios, on va devoir en trouver 80, puis 120 milliards, hein, probablement. Ce qui, de toute façon, si vous faites le calcul, est assez juste, hein, puisque je vous renvoie au calcul qu'on avait fait à l'époque. Il faudrait qu'on économise à peu près 200 milliards pour arriver simplement à ne plus s'endetter de manière supplémentaire. Vous avez eu, je le rappelle donc il y a quelques jours, l'agence Moody's qui. Alors, j'ai pas bien compris et j'ai cherché la réponse, je ne l'ai pas trouvé ce qui s'était passé. L'agence Moody's n'a pas modifié la note de la France, alors que normalement c'était le jour où elle devait modifier sa note. Mais, et donc, la note aurait été maintenue. Mais, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, c'est la lecture qui en a été faite par les journaux, et je pense que s'ils font cette lecture-là, c'est qu'il y a un fond de vrai. Ce n'est pas véritablement un maintien explicite, c'est plutôt une absence de nouvelles notes qui fait que c'est toujours l'ancienne note qui vaut. Ce qui est assez inhabituel de la part de Moody's, et on a un petit peu l'impression, ça fait vraiment penser, ça m'a vraiment fait penser à The Big Short, vous savez, quand les mecs ils ont fait leur pari, tout ça, ça y est, ils savent que les choses vont se casser la gueule, et clairement les choses sont en train de se casser la gueule, et ils comprennent pas pourquoi les agences de notation ne changent pas la note. Ils disent, mais c'est pas possible. Et c'est là qu'ils disent, en fait, c'est tout le système qui est frauduleux. C'est pas possible. Et effectivement, ils vont les voir. Et les types leur expliquent que si jamais ils baissent leurs notes, ben, ils leur demanderont plus ils leur demanderont plus de les noter. Et donc, les agences de notation n'auront plus de quoi vivre parce qu'elles n'auront plus de clients. Alors, je ne sais pas si ça marche comme ça avec l'État français, si l'État français a fait le même coup à Moody's. Ce qui est assez certain, c'est que si notre note était encore dégradée d'un cran, d'après ce que j'ai compris, on sortirait de la catégorie de la dette qui est utilisable à un certain nombre de fonds de pension notamment ou de catégories de placement qui sont considérées comme assez sûres. Ça veut dire qu'en gros, tout d'un coup, l'amplitude du nombre de produits financiers dans lesquels votre dette peut être inclue diminue sensiblement parce que vous êtes exclu d'un certain nombre de produits. Et donc, naturellement, à partir du moment où vous êtes exclu de ces produits, ça diminue l'espace sur lequel vous pouvez aller chercher des crédits. Et donc, ça renchérit, semble-t-il, c'est un effet de seuil, d'après ce que j'ai compris, qui renchérit encore plus votre coût de crédit. Et donc, ça, effectivement, ça serait une catastrophe pour les finances publiques. Mais encore une fois, c'est pas comme si on s'en doutait pas. Hein, et comme si on n'avait pas vu arriver cette solution. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans les jours qui ont suivi ça, on a eu cette espèce de conférence de François Bayrou qui est venu expliquer qu'il allait falloir régler ce problème de dette. Alors là-dessus, on est tous d'accord, mais très clairement, ça a donné le sentiment d'une soudaine fébrilité, assez clairement, de la part du pouvoir exécutif et budgétaire notamment. En attente du prochain budget, et donc mais je pense qu'on va très clairement vers un nouveau dérapage. Il y a quand même eu des projections alors déjà on savait à la base que les projections dans le budget étaient vraisemblablement surévaluées. Quand on regardait celles d'autres institutions financières que celles de l'État, de mémoire il y avait 0,2 points de différence, hein. C'était nous on annonçait 0,9 et les autres disaient 0,6-0,7. Bon. Là, on s'aperçoit qu'officiellement, on rabaisse la prévision de croissance à 0,7, c'est-à-dire ce qui était prouvé. Ça veut quand même dire que sur la croissance que vous avez prévue, vous diminuez votre évaluation de 25% quand même déjà. Donc, ça veut dire que si vous devez diminuer de 25% l'augmentation prévue des recettes, ça peut commencer déjà à faire un petit peu d'argent. Donc, à mon avis, on va bien partir sur des dérapages qui vont s'accroître d'autant plus qu'avec les difficultés économiques liées à la guerre commerciale, ça risque de swinguer pas mal. Et donc, à partir de là, on va aller toujours plus vers la ruine et toujours plus sur les tensions. Mais ça va permettre de voir un certain nombre de choses que je vous dis depuis un moment, que je dois dire depuis l'année dernière, en particulier cette idée que j'ai déjà répétée, qui est que l'affouérisme est dans les choses. Vous savez, c'est ce que je dis. À Fuera du cri de Javier Milei sur l'idée de supprimer rapidement un certain nombre de choses, de couper, trancher dans le vif sur la capacité de dépenses de l'État. Et donc cet affouérisme, je dis, il est dans les choses, c'est-à-dire qu'en fait, on va finir par y venir par nécessité. Beaucoup en doutaient d'ailleurs encore il y a un an, mais il faut se rendre compte à quel point la ruine va arriver de plus en plus vite maintenant. Et ce qui fait que, si vous réfléchissez bien, si vous vous souvenez, que Barnier est tombé en partie sur le fait qu'il voulait commencer à faire contribuer un peu les retraités, en diminuant ou en retardant l'indexation des pensions. Et là, ce qu'on voit, c'est que, très sérieusement, en fait, et j'ai envie de m'en réjouir, de triompher, un certain nombre de choses que nous disions sur les réseaux sociaux finissent par pénétrer au Parlement et par pénétrer dans le discours public. Il y a l'idée de la suppression de l'avantage fiscal, donc, j'y reviens, des retraités. Extrêmement important. Encore une fois, il y a le côté donc abolition des privilèges. Il devrait y avoir le côté aussi saisie des biens du clergé. Saisie des biens du clergé, ça serait, je sais pas moi, la suppression des dotations aux syndicats, la suppression de l'audiovisuel public, ce genre de choses, la suppression des subventions à la presse, par exemple. On peut espérer ça, on n'en parle pas encore trop. Il faut dire que les économies à faire de ce côté-là sont quand même d'une magnitude très inférieure à ce qu'il peut y avoir dans la capacité à prendre l'argent des retraités. Mais on va venir vers ça. On va venir vers ça. On a l'idée aussi d'une taxation supplémentaire qui pourrait grever les retraités. On a la question de la désindexation. Enfin, tout ceci va venir par nécessité, encore une fois, parce que ça va être ça ou la ruine. Donc, il n'y aura pas le choix de faire ça. Et ça, encore une fois, ça sera comme c'est arrivé sous l'Ancien Régime. Je rappelle que, je l'ai déjà eu dit ici, mais la première chose qu'ont fait les États généraux, je crois que c'est dès le mois de juillet 1789, c'est de déclarer la dette sacrée. Alors pourquoi ? Parce que la dette était détenue par la classe sociale de la bourgeoisie qui avait élu les députés du tiers. Donc c'était en fait leur argent, si vous voulez. Et donc si l'État royal faisait défaut sur sa dette, c'était leur argent en fait qui ne leur était pas rendu. Donc ils avaient fait ça. Et c'est tout à fait analogue au fait que depuis l'élection de l'année dernière, il y a cet arc-boutage sur le fait qu'on refuse de toucher aux intérêts des retraités, en n'oubliant pas que ce sont les retraités qui font les élections. Donc c'est exactement la même mécanique. Pour autant, les biens ont fini par être saisis. Pour autant, il y a eu tout un changement fiscal qui a été fait. Et ce sont des choses qui vont... Et à la fin, on a fait défaut sur les deux tiers de la dette pendant la Révolution. Il faut quand même se souvenir de ça. Donc ce sont des choses qui vont se présenter petit à petit. Et on voit que c'est long. Je suis tout à fait d'accord. C'est peut-être plus long que ce qui était imaginé. Ça a été rallongé aussi par le fait qu'encore une fois, le résultat des élections nous amenait vers ce pourrissement. J'avais fait une émission qui était intitulée comme ça, le pourrissement. Et en fait, le pourrissement, c'est typiquement ce qu'on voit depuis les élections de juillet dernier. C'est le lent pourrissement de la Ve République, une situation budgétaire dont on n'est pas sorti, et petit à petit, les idées qui finissent par émerger spontanément et finalement s'imposer dans le débat public, comme le fait de revenir sur les avantages des retraités, etc. Alors la question, c'est est-ce que tout ceci va finir par déclencher une censure ? Là aussi, c'est assez bizarre parce que la censure, on en a l'impression qu'on en entend de plus en plus parler par des gens qui ont de moins en moins intérêt à le faire. Parce que du coup, si Marine Le Pen décide de censurer, elle a plus de boulot, puisqu'elle ne sera plus députée et elle ne pourra pas se représenter. De l'autre côté, vous avez les socialistes qui sans doute hésitent encore parce qu'ils ont leur congrès et donc ils n'osent pas trop bouger, même s'ils essaient de renchérir les uns sur les autres pour justement en vue de ce congrès-là. Donc on est vraiment dans une situation politique qui, encore une fois, va continuer à pourrir. Va continuer à nous amener lentement vers la ruine, mais encore une fois, je pense que c'est une ruine qui est prévue. On va continuer à entendre des histoires absolument navrantes, comme celle de l'histoire de cette femme que j'ai vue aujourd'hui, qui allait pour se faire avorter dans un hôpital et qui finalement a été amputée des quatre membres parce qu'elle a chopé une infection. Ce qui est une histoire assez horrible dans tous les sens. Quelqu'un a posé la question, est-ce qu'elle était toujours enceinte après ? Je ne sais pas si l'avortement a fonctionné. Bref, mais c'est vraiment des histoires horribles. Et donc, on a un peu l'impression qu'on va boire le calice jusqu'à la lie de la ruine de la Ve République. Ce serait tout à fait logique. La question, c'est quand est-ce qu'on va commencer à voir des mouvements sociaux ? Parce que je rappelle que, selon moi, si Emmanuel Macron ne doit pas finir son mandat, je continue de penser que 2 ans, c'est très long dans cette situation-là, vu la ruine qui nous attend d'ici là. Mais il n'y aura pas de fin de mandat d'Emmanuel Macron sans mouvement populaire extrêmement massif. Puisque dans toutes les révolutions en général, c'est ça qui pousse à la fuite finalement du que ce soit du roi, du Kaiser ou la chute du régime soviétique. Ce sont des mouvements populaires importants, des grèves générales, etc. Et là, clairement, on n'y est pas encore. Il y a des choses qui pourraient pousser dans ce sens. Encore une fois, la question des ZFE, peut-être aussi simplement des problèmes sociaux qui viendraient du fait que l'État ne pourrait plus payer. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ce sont des choses qui peuvent arriver très vite. Et donc, ce qui est assez clair, c'est que on a un exécutif qui commence à paniquer un peu plus que l'année dernière sur la question des finances. On a presque envie de se demander, en tout cas moi je me demande, quel était l'intérêt de faire le budget précédent si c'était pour juste repousser le problème au budget suivant. Je vois pas trop, il aurait fallu régler le problème tout de suite. C'était quoi l'intérêt de ne pas être censuré en janvier si le risque c'est d'être censuré en septembre sur le budget suivant. Enfin, je ne comprends pas, à part des gestes de survie politique, encore une fois, d'acteurs qui, je pense malgré tout, pour une bonne partie, même s'ils parlent d'endettement, etc., ne se rendent pas compte du sursis dans lequel est ce régime actuellement. Donc, les choses qu'il faut surveiller dans les semaines, les mois qui viennent, c'est un petit peu toujours les mêmes. Des choses de fond, hein, comme j'en ai parlé, sur l'activité du Parlement, les mutations, la façon dont se reforme finalement la vie parlementaire en France, parce que ça progresse. Les bras de fer ou les querelles entre la présidence de la République et le gouvernement ou des membres du gouvernement, et ensuite l'agitation sociale. Voilà, je crois que c'est les trois grands axes à surveiller qui, jusqu'ici, hein, dans les derniers mois, vont clairement dans le sens, encore une fois, même si c'est long, de la chute du régime, selon moi, mais encore une fois, je le rappelle, hein, entre la proclamation du serment du jeu de paume et la fuite du roi à Varennes, il se passe 2 ans, hein, malgré tout. Il se passe 2 ans. Donc, ce sont des choses qui peuvent durer encore un petit moment avant de voir des choses se développer sérieusement. Voilà ce que j'avais à dire ce soir. Je pense n'avoir rien oublié. Est-ce que nous avons des questions? Ah oui, juste un petit mot de plus. Je parlais dans mon intro d'une attaque de train. Il y a un an, je crois, j'avais fait une émission sur Bienvenue au Far West. C'était à l'époque de l'évasion de Mohamed Amra et d'un certain nombre d'autres choses. Ben, là, pareil, maintenant, il y a eu un train de marchandises qui a été attaqué en Ardèche en pleine nuit. C'est-à-dire, le train, il y a eu des blocs de pierre posés sur les voies qui ont obligé le train à s'arrêter. Et pendant qu'il était arrêté, il y a des malfaiteurs qui ont forcé 6 conteneurs et volé comme ça de la marchandise, des matériels électroménagers, des cosmétiques, téléviseurs, etc. Donc, maintenant, on a aussi des attaques de train en France. Et donc, le côté Far West ne fait lui aussi que s'accentuer et ça va de pair avec la dégénérescence du régime. Est-ce qu'on a des questions, mon cher Léo ?
On remercie Stéphane Ducot pour son don. Il nous dit
« Merci.
Une solution pour dénicolaïser les actifs. »
Ah, alors, rappelons que Nicolas, c'est cette figure de l'actif oppressé, hein, qui paye toujours et pour tout le monde. Ça aussi, ça va dans le sens de la révolution. La façon dont ce discours sur le Nicolas monte depuis quelques mois. Bon, naturellement, ça vient de notre très cher Bouly, qui est un peu le... D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a rien publié depuis quelques jours. On s'en inquiète un peu. Je sais pas si... J'espère qu'il n'a pas été arrêté par le pouvoir lui aussi, mais son dernier poste était du 12 avril. Ouais. Il a rien publié depuis une semaine. C'est assez curieux. Bref, cette idée donc de Nicolas qui monte, moi, me rappelle toujours ce dessin que vous connaissez bien des trois ordres. Hein, où vous voyez le tiers-état avec sur le dos la noblesse et le clergé. Et Nicolas, c'est la même chose en fait. Et ça monte et ça monte. Et je pense que Nicolas restera, comme vous aviez dans tous les livres d'histoire sur la Révolution française, cette caricature du tiers-état, de la noblesse et du clergé. Vous aurez, je pense, cette photo de Nicolas qui se tient les mains, parce que ça désigne ça désigne ce que nous sommes comme génération d'actifs exploités. Chose très importante, vous avez quand même eu dans le discours de Bayrou, il a montré un schéma, je ne sais pas si tu l'as vu Léo ou si tu l'as retrouvé, qui montre la structure de la dépense, de la comment dire, la structure de comment on dit, de la contribution et du bénéfice de la dépense sociale, et où vous voyez très clairement donc que ce sont les actifs qui payent le plus et qui bénéficient le moins, qui dépensent le moins, et que ce sont les vieux qui payent le moins et qui bénéficient le plus. Alors bon, c'est normal en grande partie pour les dépenses de santé naturelles, mais ça n'explique pas le fait qu'ils paient le moins, hein, puisqu'on sait que de toute façon en France, il y a tout un tas de problèmes d'avantages pour les retraités, tout un tas d'avantages qui ont été créés dans une situation qui n'existe plus. Les avantages ont été créés pour la génération d'avant le baby boom qui avait très peu de retraite et qui n'avait pas le même minimum vieillesse, etc. Donc pour ces gens-là, ben, pour les aider à vivre et compenser le fait qu'ils avaient une toute petite retraite, on leur avait donné tout un tas d'avantages en matière de transport, de battements fiscaux, etc. Et les boomers qui sont arrivés avec des retraites beaucoup plus grosses ont toujours ces avantages, hein, puisqu'ils paient moins cher le train que vous si vous avez besoin. Hein. Moi, je vais faire des voyages là pour faire un petit peu de promo à Paris. On paie plein pot, hein, eux c'est pas leur cas, etc. Donc le meilleur moyen de dénicolaiser c'est de détruire le système étatique social en France. Il y a tout un tas de choses à faire. Je proposais l'autre jour ça relève carrément quasiment de la réforme agraire, hein, ce dont je vais parler, mais il y a des gros transferts de richesses qu'il faut faire et qui sont nécessaires parce qu'ils ne viendraient en fait que corriger des transferts artificiels de richesses. Il y en a un dont je parle souvent, j'en ai parlé maintes fois ici, c'est le fait qu'en réalité, toutes les mesures censées bénéficier aux primo-accédants, à la propriété, aux locataires, etc., c'est-à-dire les prêts à taux zéro, les APL, etc., toutes ces mesures économiques, in fine, ont eu pour effet de renchérir le coût du logement et d'enrichir les propriétaires. En faisant augmenter les loyers, puisque vous donnez plus d'argent aux locataires, les loyers augmentent. Vous augmentez la demande, les loyers augmentent. Et ça faisait augmenter le prix des biens aussi. Donc les boomers, ce sont, la partie la plus riche des boomers notamment, s'est enrichi considérablement avec l'immobilier. Et donc ce que je disais, c'est que pour commencer à dégraisser l'État, il faudrait commencer par supprimer tous ces trucs-là. Les APL, l'aide publique au logement, c'est presque 15 milliards par an. C'est très important. Là. Quand vous en cherchez 40, en trouver 15 d'un coup, c'est quand même très important. Donc moi, je suis pour la suppression des APL. Les gens vous disent, oui, mais regardez, quand Macron avait essayé de baisser les APL de 5 euros, déjà, ça avait volé. Oui, mais attention, quel est le problème? Si vous vous contentez de baisser les APL, les loyers restent au même prix, dans un premier temps en tout cas. Donc pendant la période transitoire et avant que le marché évolue à la baisse, s'il évolue vraiment à la baisse, qui paye le coût de cette transition? Ben, ce sont les locataires, ceux qu'on aidait jusque-là. Et donc ça, effectivement, socialement, c'est difficilement admissible. Moi, je pense qu'une bonne mesure de justice sociale et fiscale, pour le coup, serait de supprimer les APL et de mettre en place un régime transitoire qui fera en sorte que la baisse du coût des APL pèse sur les propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une période déterminée, je pense que les économistes doivent être capables de dire combien de temps le marché immobilier mettrait à s'adapter et à absorber cette évolution de la suppression des APL, eh bien pendant cette période-là, vous faites en sorte de baisser arbitrairement et légalement les loyers d'autant que rapporter les APL. Alors ça peut se faire progressivement, etc. Mais ça serait un moyen de faire en sorte que le coût de transition soit payé par les propriétaires actuels. Alors on va vous dire, oui, ah, c'est aux propriétaires encore de payer, les propriétaires sont tabassés, etc. Alors, moi je vais même, enfin, encore une fois, comme je vous disais, ça fait 20-30 ans qu'ils ont bénéficié de toutes ces mesures-là. Que les APL, que des milliards et des milliards, 15 milliards par an, pensez-vous, ça va faire 200 milliards sur 20 ans, sont partis dans les poches des propriétaires. Et c'est l'argent public, ça. Moi j'ai aucun problème à ce qu'un propriétaire fasse de l'argent avec ses loyers, à partir du moment où c'est l'argent privé, mais à partir du moment où ses loyers lui sont payés avec de l'argent public, là ça me pose un problème. Parce que c'est Nicolas qui paye, justement. Hein. Donc, Faudrait faire ça. Et puis s'il y en a, du coup, vous comprenez pas, mon bonhomme, c'est plus rentable de louer, etc. Ben vous vendrez, hein. Et puis vous vendrez, ça fera baisser les prix de l'immobilier, ce sera très bien. Et puis les boomers qui ont trois appartements en vendront un pour payer le surcoût des deux autres. Enfin, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je parle un peu de réforme agraire, mais c'est un côté vrai, ça. Ça, je pense que c'est vrai. Autre chose à faire, et ça, ça a déjà été abordé. Je sais plus si c'était pas Sylvain Catherine qui avait pas fait des trucs dessus ou j'avais vu des tweets, mais c'était il y a quelques mois, ça déjà, c'était il y a 6 mois. Des gens qui disaient ce qu'on pourrait gagner rien qu'en vendant la totalité du parc de logements sociaux. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Vendre les logements sociaux avec une possibilité de préemption pour ceux qui habitent déjà dedans, les vendre au prix du marché, ça aussi ça fera baisser sérieusement le marché, et il faut supprimer les logements sociaux. Là, j'insiste là-dessus, je pense qu'il faut supprimer le logement social en France. Parce qu'on n'est pas un pays qui était en guerre il y a 10 ans, hein. On n'est pas en pleine reconstruction, donc les gens, il n'y a pas besoin d'aider les gens à se loger à ce point-là, d'une part. D'autre part, j'ai une théorie sur les logements sociaux que je crois vraie et que je tiens pour vraie, qui est que les logements sociaux et toute l'idée de maintenir de la mixité sociale, tout ça c'est un habillage pour en réalité faire peser sur la collectivité le coût du logement des personnels de service de la bourgeoisie. C'est-à-dire ce que je disais l'autre jour sur X, au 19e siècle, et probablement jusqu'au milieu du 20e siècle, la bourgeoisie, quand elle avait du personnel domestique, hein, pour faire ses courses, pour faire son ménage, etc., elle logeait ce personnel. C'était les fameuses chambres de bonne, hein, ou dans les combles, enfin, vous aviez toujours les logis des domestiques. Bon. Donc, vous étiez riche, vous aviez un immeuble haussmannien, ou des appartements dans des immeubles haussmanniens, vous aviez des pièces qui étaient consacrées au logement de vos employés de maison, et de vos divers employés de service. Hein. Bon. Ça n'existe plus. Depuis longtemps, mais une bonne partie des gens qui faisaient ces emplois, les femmes de ménage, les gardes d'enfants, etc., tous ces gens qui viennent dans la bourgeoisie des villes et qui sont souvent issus de l'immigration d'ailleurs, souvent pour ça qu'ils sont importés, pour faire ces emplois à bas coût pour la bourgeoisie des villes, ne sont plus logés avec les bourgeois dans leurs appartements, dans leurs locaux, et à leurs frais, mais il faut qu'ils soient logés suffisamment près pour qu'ils puissent travailler pour les bourgeois. Parce que à Paris, si vous n'avez plus de logements sociaux, si tous ces gens-là n'avaient plus accès de suffisamment près, n'étaient pas, même s'ils ne sont pas à l'intérieur de la ville, mais s'ils n'étaient pas suffisamment près avec les transports en commun, etc., de l'endroit où ils viennent travailler pour ces gens-là, eh bien, ces gens-là n'auraient plus de petits personnels. Ils n'auraient plus de livreurs, ils n'auraient plus de femmes de ménage, ils n'auraient plus de gardes d'enfants, ils n'auraient plus de tout ça. Bon. Donc il faut les leur loger suffisamment à proximité pour qu'ils continuent de travailler pour eux. Sauf que pour les loger à proximité, alors que les prix du logement sont ce qu'ils sont, il faut mettre en place des HLM pour les loger. Mais vous comprenez bien qu'en fait, au fond, ça revient à faire payer du coup par la collectivité le maintien à proximité de la main d'une main d'œuvre qui profite principalement à certaines personnes. Donc on vous habille ça sous l'idée que c'est de maintenir la mixité sociale, c'est pour l'égalité, c'est pour le truc, etc. Alors qu'en fait, comme d'habitude, hein, c'est exactement la même chose que ce que je disais sur les APL, etc. C'est ça profite à une catégorie de personnes pour laquelle on évite de lui faire payer un certain nombre de choses trop chères ou de les assumer elles-mêmes. Et vous avez tout un tas de choses comme ça qui peuvent être considérées comme étant un moyen pour les employeurs de payer moins cher, hein, la prime d'activité par exemple, hein, ça permet de donner un niveau de vie assez correct. Et en fait, tous ces schémas que vous voyez, vous savez, récemment on a vu la façon dont les revenus sont écrasés en France par l'imposition et la redistribution de l'autre côté. Je ne sais pas si tu as ce schéma sous la main, Léo, qui était très intéressant, qui montrait à quel point la France était un système égalitaire par la taxation, à quel point vous avez tout un tas de gens, justement, notamment les Nicolas, qui ne bénéficient pas du système mais y contribuent. Tous ces systèmes-là, souvent, sont faits, la redistribution permet à un certain nombre de bénéficiaires d'externaliser, notamment dans les classes les plus riches, d'externaliser un certain nombre de coûts. Et donc, et au milieu, en fait, la classe moyenne est véritablement prise entre le marteau et l'enclume, de la redistribution en direction des plus pauvres et du financement au profit des catégories les plus les plus aisés. Ça, donc je suis persuadé que supprimer les HLM, ce serait aussi un moyen de remettre de l'ordre là-dedans en obligeant chacun à assumer les propres coûts de son style de vie véritablement. Voilà, ça fait partie des pistes pour dénicolaïser d'une certaine manière. D'autres questions?
Ouais, alors déjà juste un message. Attends. Alban qui dit merci à l'historionomie de m'avoir permis de rencontrer des gens extraordinaires et particulièrement Thomas et Marie que j'embrasse. Shabbat shalom. Oui, on ne parle pas assez du côté réseau social de l'historionomie.
C'est vrai, le télégramme est très 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 qualitatif, je m'en réjouis chaque jour. Et je ne m'y attendais pas, c'était même pas ce qu'on cherchait à faire et c'est peut-être la meilleure chose qu'on a faite. C'est une surprise et un régal de chaque jour et je remercie tous les membres du canal Telegram.
Je profite de cette perche hein, concrète pour dire profitez du télégramme à 5 euros.
Oui, ça pourrait ne pas durer.
Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
Ouais, je pense que dans 20-30 jours, il n'y en aura plus, mais vous inquiétez pas, on fera une très belle prime à ceux qui étaient déjà là et à ceux qui vont arriver vite. Donc, il n'y aura pas d'influence sur ceux qui sont déjà là et ceux qui arrivent vite. Mais bientôt, il n'y en aura plus. Attends, donc ça je l'ai lu. Alyosha, ta question, je vais la garder plutôt pour le live privé. Et The Chatanist, bon, question qui revient régulièrement. Historionomiquement, faut-il s'expatrier en Argentine?
Alors d'habitude, on me demande où est-ce qu'on peut s'expatrier. Là, est-ce qu'on peut s'expatrier en Argentine? Très honnêtement, c'est le genre de chose qui me fait envie. Je le ferai pas, mais s'il y avait un endroit où je devais aller, c'est vrai que l'air Milei fait envie. Et puis chaque fois que j'ai vu des photos d'Argentine, je trouvais que c'était très beau en plus. Donc je vois pas de danger particulier pour l'Argentine dans les années qui viennent, a priori. Donc ça peut être bien, même si encore une fois, je pense qu'on sera à l'abri nulle part.
On l'a terminé pour ce soir, pour le live. Ah oui, non, donc je voulais refaire une annonce par contre. Philippe, je crois qu'il se passe quelque chose le 15 juin. Tu vas me le renvoyer dans la tête. Le 15 juin, parce que du coup, cette fois, j'ai à afficher non pas cet excellent graphique, mais cette excellente affiche. Le 15 juin, nous vous attendons. On ne voit pas, c'est dommage, mais on ne verra pas, je pense. Le 15 juin, nous vous attendons. Salle Mabillan au 5 rue de l'Abbaye dans le 6e à Paris pour le congrès historionomique avec un accueil je crois à 9h30 si je dis pas de bêtises. Vous avez les détails dans le lien qui est dans la description et que je remets dans le chat tout de suite pour 3... Ah merde, je peux pas dans le chat là, je sais pas. Je vais le faire après. Avec donc une conférence de Philippe, Perspective de l'histoire théorique, une conférence d'Antoine, là, que vous avez déjà vu donc, sur la vidéo très intéressante qui avait été faite sur l'épistémologie de l'historionomie, qui lui fera une conférence sur la relation États-Unis et Canada à l'heure du césarisme, une deuxième conférence de Philippe face à la bascule géostratégique, une prospective basée sur l'historionomie, un bonus débat, il n'y aura rien contre il y a quelque chose, avec... un déjeuner, un petit déjeuner, une séance de dédicace. Il n'y a que 100 places, avec déjà presque la moitié des places qui sont prises. Et il y a un prix favorisé si vous le prenez avant le 20 mai. Donc c'est 50 euros avant le 20 mai pour cette journée de conférence. Petit déjeuner, déjeuner et 70 euros ensuite. Il y aura sûrement des cadeaux aussi. Je suis en train d'y penser. Ouais, moi je parlais même de cadeaux en fait. Je parlais même de cadeaux. Je vais y réfléchir. Enfin, j'ai déjà des idées en fait pour les gens qui seront présents, sous forme peut-être de petits concours, etc.
D'accord. Très bien. Ok, alors juste dernière chose, donc si je rappelle à ceux qui l'ont éventuellement pas vu que j'ai mis l'émission de mon passage sur CNews dans Face à Bock Côté samedi dernier, donc n'hésitez pas, si vous l'avez manqué, c'est le moyen le plus rapide d'aller la retrouver, parce que ça vous n'avez pas à vous taper toute l'émission. C'est très rapide hein, comme d'habitude, hein, mais bon, j'ai essayé de balancer quand même assez d'idées pour intéresser à l'histronomie et j'ai bon espoir de pouvoir y revenir dans quelques mois. Je rappelle que je serai donc chez Berkoff mardi, mais là aussi, je pense qu'on finira par mettre l'émission sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de marquer la cloche, de partager, de faire un petit, j'ai oublié de le dire, mais de mettre un petit mot de référencement et d'ajouter un pouce. Mais je pense que le référencement, le pouce est moins important que le petit mot pour le référencement. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre via Tipeee ou via YouTube si vous voulez plus de contenu. Je rappelle, ça fait à peu près 5-6 heures de contenu par mois supplémentaire si vous nous rejoignez, donc, outre le canal Telegram, bien sûr. Et donc, voilà, c'est intéressant si vous voulez plus de contenu et nourrir la communauté. Je vous dis.